franceinter.com.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Les Français en chemin, ne soyons pas sibyllins, explicitons par un sous-titre La France, vue depuis son vélo, par un historien britannique, Graham Robb, bonjour.
Bonjour.
Auteur d'une étonnante histoire de la France buissonnière qui paraît chez Flammarion. À la veille de la Révolution, un autre Anglais, Arthur Young, l'agronome, parcourait la France en tous sens. Elle mesurait de Dunkerque à Perpignan 3 semaines de long. Et de Brest à Strasbourg,
trois semaines aussi
de large. Alors aujourd'hui, le TGV qui va célébrer le 21 septembre ses 30 ans d'âge achève le grand travail de transformation du territoire. Il raccourcit les distances, il télescope les villes, mais il laisse aussi dans l'ombre des pans entiers du territoire. Et votre question, Graham Robb, c'est comment retrouver le mouvement brownien, la circulation de fourmilières, la capillarité qui animait autrefois la France. Alors on peut lire pour cela, et vous le faites depuis des années, les archives et les livres, mais on peut aussi parcourir. Vous le faites depuis des années aussi, le pays en vélo, 22 000 km à votre compteur. Il paraît que vous avez été membre du club de l'association des 100 cols.
Le club des 100 cols, c'est ça. Mais j'ai déjà fait plus de 100 cols. Les cols ne manquent pas.
Et puis, France. Vous allez aussi beaucoup plus bas. Védin, Barège, Marquèze, Bruère, Alichamps. La France n'a pas de secret pour vous. C'est plus facile, quand on est à vélo, d'être reçu par les Français. C'est plus facile aussi quand on est britannique, comme vous, que quand on est parisien.
Ça, c'est sûr. Et d'autant plus si on est écossais plutôt qu'anglais. On a souvent l'impression que dans certaines régions de la France, les gens sont beaucoup plus accueillants envers les étrangers qu'envers les Parisiens. C'est parfois un peu comme si un Gaulois parlait de l'envahisseur romain. Le Parisien, c'est toujours l'impérialiste, en quelque sorte un étranger.
Y aurait-il une guerre civile culturelle ?
Ah, c'est bien possible, oui. On a parfois l'impression.
Védin, Barège, Marquèze, Bruère, Alichamps. Vous circulez, j'imagine, armé de cartes comme Bouvard et Pécuchet, je ne veux pas faire de rapprochement désagréable. Jean Carmet, Jean-Pierre Mariel, au début de Bouvard et Pécuchet, le film de Jean-Daniel Varègue.
Voici la France. Bon, le Nord, on n'en parle pas, c'est fertile, mais c'est trop plat. Le Midi, bien sûr, jouit d'un climat enchanteur.
Oui, mais il y a les moustiques.
Ah oui. Le Centre, franchement, n'a rien de curieux.
La Bretagne, peut-être.
Oui, mais là, les habitants ont souvent l'esprit très...
Oui, t'as raison. Hein? On ne peut pas recommander les régions de l'Est à cause des patois germaniques. Mmh. Le Touraine, c'est humide. La Gascogne, c'est loin. Hein.
Et qu'est-ce que le Forez, à quoi ça ressemble?
Je ne vois pas. Pas plus que le Bugey ni le Roumois.
Pécuchet, il l'a trouvé. Mmh. En Normandie.
Alors la carte, parlez-nous de l'usage de la carte.
Alors ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que la France n'avait pas été cartographiée avant la Révolution. Et même après la Révolution, la première carte de la France, qui a été créée par une grande expédition héroïque des frères Cassini, de la famille Cassini, les dernières feuilles n'ont été publiées qu'après la chute de Napoléon. Et même alors, il y avait beaucoup d'erreurs à corriger, parce qu'on avait commencé en 1740, ça a duré presque 70 ans. Et on a recommencé alors par la carte de l'état-major.
Mais les Cassini, ils ont engagé beaucoup de leur argent dans cette aventure. Et alors, leurs collaborateurs, dites-vous, il leur fallait les mêmes qualités physiques de robustesse qu'aux astronautes qui explorent le ciel aujourd'hui.
Oui, et justement, Cassini, c'est le nom de... la satellite qu'on a envoyée à Saturne, ils exploraient un pays qui était vraiment inconnu.
Un pays qui s'ignorait, dont les villages ne savaient pas qu'ils appartenaient à la France. Vous racontez par exemple qu'au pied du mont Mézinc, dans le Massif central, Haute-Loire, dans les années 1740.
Oui, ils ont assassiné le géographe.
Le villageois a pensé que le géographe était dangereux avec tous ses instruments et l'a assassiné.
Il ne savait pas ce qu'il faisait. Oui, avec ses instruments très curieux, exotiques. Donc, pour eux, c'était quelque chose de très logique. Ils avaient remarqué que chaque fois qu'un étranger arrivait dans le pays, leurs impôts augmentaient par la suite ou quelque chose de désagréable arrivait. Donc, ils défendaient leur territoire. Eux, ils n'avaient pas du tout l'impression d'être français. Ils ne savaient même pas ce que c'était. Ils auraient peut-être entendu parler de Paris, mais cela n'avait aucun sens. Donc pour eux, ils habitaient ce petit pays qui avait un rayon d'à peu près 15 kilomètres, pas plus que ça.
Les Français sont d'un pays avant d'être d'une patrie.
Oui, de plusieurs pays. Et ce qu'on remarque, même à la fin du 19e siècle, les gens ont appris qu'ils étaient français avant d'apprendre qu'ils étaient bretons ou auvergnats ou provençaux. Parce que là encore, la Bretagne, c'était un pays trop vaste pour être compris. Donc ce n'est qu'après avoir appris qu'ils étaient français qu'ils ont appris des instituteurs aussi qu'ils étaient bretons. Parce qu'avant, ils appartenaient à un tout petit pays, à un village.
La petite patrie, c'est l'échelle du canton, c'est pas l'échelle de la région, c'est pas l'échelle du pays, c'est l'échelle du rayon d'action des cloches.
Oui. Le rayon d'action des cloches, ce qu'on voyait du village. Et c'est pour cela que tant de montagnes en France s'appellent, dans le dialecte, montagne ou colline. La colline. Et les rivières en plus. Et justement, les géographes de l'expédition de Cassini demandaient aux gens de nommer les villages et les sites qu'il fallait marquer sur la carte. Et ils ont répondu, c'est la montagne.
Alors, les cartographes de Cassini, au XVIIIe siècle, marchaient à pied avec un âne, un mulet, pour transporter leur matériel qui paraissait mirobolant et inquiétant aux villageois. Et maintenant, ce sont les chiens qui menacent ceux qui circulent à pied ou ceux qui circulent à vélo. Il y a un tiers de siècle, Jacques Lacarrière avait entrepris, lui, le bourguignon de Sassy, de parcourir la France à pied. Et il rencontrait pour France Inter René Fallet, l'homme de la vallée de la Bèbre, dans le Bourbonnais, dans l'Allier. C'était en 73.
Traverser un pays à pied, on s'aperçoit que la France, la structure de la France dans ses chemins, ses raccourcis, ses sentiers, a changé considérablement. Il y a des raccourcis d'un kilomètre ou un kilomètre et demi pour aller du village, les gens prennent leur voiture et font un détour de 11 kilomètres pour y parvenir. Plus personne ne pense à prendre un sentier. Moi, j'ai demandé souvent des chemins comme ça avec les cartes d'état-major, et je me souviens que dans l'Aubrac, un paysan qui était en train de casser son bois devant sa maison, je lui dis quel est le chemin qui permet d'aller, je crois, à Espagnac. Enfin, c'était pas très loin, c'était à 7-8 kilomètres. Et il y avait un raccourci qui devait faire 4 kilomètres à travers une sorte de causse. Et il me dit, il commence comme un conte, il me dit, je me souviens que quand j'étais enfant, mes parents allaient au marché par ce chemin qui passe là-bas sur le rocher. Mais je ne l'ai plus pris depuis 50 ans. Alors, je dis, bon, je vois celui qui passe près du rocher, je vais le prendre. Et effectivement, ce chemin m'a mené en une demi-heure, trois quarts d'heure à l'endroit où j'allais. Mais personne ne l'a plus pris de celui dans ce village depuis 50 ans.
Moi, j'ai découvert, comme ça, dans le Bourbonnais, des petites routes où je n'aurais jamais eu l'idée d'aller en voiture ou même en mobylette. J'ai découvert mon pays par le vélo. Et alors, je me souviens, là, j'ai introduit le vélo de course là, à Jaligny-sur-Bèbre, mon patelin. Alors, tout le monde me regardait comme les croquants regardaient la carrière, en disant, qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a même un qui a dit, mais enfin, quoi, Fallet, il a bien des sous, pourquoi il n'a pas une auto? Et alors, les gars, après, ils se sont dit, mais s'il fallait faire du vélo, pourquoi pas nous? Et ils en ont acheté. Non, sur une population de 800 habitants, il y a au moins 10 vélos dignes du nom.
On est quand même mieux considéré quand on est à vélo qu'à pied. Hein.
Ah oui, c'est vrai, oui.
À pied, c'est
parce
le cheminot.
Parce que les clochards, oui, le cheminot... Tandis que si on a un beau vélo, les vélos sont toujours très appréciés partout en France, je trouve. C'est la grande différence avec l'Angleterre. Et je crois que les gens ont souvent l'impression que c'est ainsi qu'il faut découvrir la France.
Parce que c'est ainsi, la carrière à pied, Fallet en vélo le disent à l'unisson, qu'on retrouve les anciens chemins.
Oui, justement, parce qu'on veut éviter les grandes routes, les routes nationales surtout. Et en regardant la carte, comme il vient de le dire, on retrouve souvent les chemins plus logiques, plus courts, et souvent on se trouve sur une voie romaine qui existe encore, sur une voie de transhumance créée par, d'abord par, par les animaux, les bergers. Et c'est un peu comme ça que le livre a commencé, parce que je voulais savoir quels étaient ces chemins qui étaient si commodes et que personne n'employait. Et je pensais aussi, en écoutant cet extrait, que ce qu'il ne faut pas faire quand on fait du vélo, c'est de, si on est perdu, c'est de demander aux gens comment il faut aller d'ici au prochain village. Car très souvent, ils ne savent pas.
Ils ont oublié les pistes de transhumance, les voies romaines. Vous parlez aussi de la confluence des fleuves, des routes des vallées, des sentiers des crêtes.
Oui, surtout les confluences de fleuves qui nous semblent aujourd'hui des ruisseaux sans aucune importance. Mais très souvent, on voit des vestiges de maçonnerie. Et on voit que ces petites rivières étaient utilisées pour transporter des produits parce qu'ils étaient plus commodes que les routes. Les routes se dégradent, surtout pendant l'hiver. Et très souvent, même si le gouvernement avait fait construire une route, les gens ne l'employaient pas.
Parmi les vieux chemins, il y a ceux des pèlerinages. Raphaël Kraft pour France Inter ou pour France Culture ou pour des sites, journaliste à vélo, la Haute-Marne en bicyclette, a beaucoup circulé dans le pays à vélo, comme vous, Graham Robb, et il était en Lorraine, sur la colline de Sion. Vieux chemin de pèlerinage et vieille pérégrine, Jeanne Duval.
Bah, la colline de Sion, c'est tout mon enfance.
Vous ne montez plus sur la colline en vélo depuis quand ?
Oh, ben, en vélo, depuis qu'il vient vieux, il n'y a plus de frein. Il y a 2 jours, il y a un monsieur qui m'a dit « Oh, si j'avais un appareil comme j'aurais vous aurais pris, vous avez descendu la grande côte, là, en trottinette. Ben, » je mets mon pied sur la pédale, puis je retiens, il n'y a plus de frein, il n'y a plus de sonnette. On m'a pris ma pompe, j'ai laissé, il n'y a plus. Alors le gendre, de temps en temps, il me le dégonfle un peu, il dit « Comme ça, la mère, elle ne prendra plus le vélo. » La police dit « Mais votre belle-mère, c'est dangereux !»
Mais et l'ascension, quand vous l'ascension, montez la colline, vous avez 90 ans, là.
Ah, ben, 90 ans, je la monte encore, par le chemin des vaches, mais je vais mollo, hein. Ben oui, je suis toujours heureuse quand je monte à Sion.
Pourquoi êtes-vous si heureuse lorsque vous montez la colline ?
Je me sens bien. Pour moi, c'est un appétit. Hier, j'ai dit à des gens, « Tiens, demain, je vais à Sion. Oh, vous prierez pour moi. » J'ai dit, « Bon, ah, j'ai plein de prières pour tout le monde. » Et puis, ça fait que je suis en montant la côte, je suis en retard à la messe, mais je suis à la messe quand même.
Avec votre épouse, parce que vous circulez en France avec votre femme, ancienne bibliothécaire d'Oxford, vous avez fait Sion, Graham Robb ?
Oui, oui, on l'a fait. Et très souvent, on les prie pour des pèlerins. Parce qu'on se dit, pourquoi est-ce que vous... Vous faites souffrir comme ça à vélo les gens qui ne se rendent pas compte que c'est le mode de transport le plus facile, quoi, le plus commode.
Mais si une dame comme Jeanne Duval peut, à 90 ans, faire encore Sion à vélo, oui, c'est que c'est un chemin ancien qui est bien taillé, oui, dont la pente n'est pas trop forte.
Oui, exactement. Et les pentes ne sont pas trop fortes en général en France, c'est ce qui étonne les Anglais. Parce qu'ils pensent qu'il y a quand même les Pyrénées et les Alpes. Mais on a découvert au XVIIIe siècle qu'une pente de 8% était facilement négociable par un mulet très chargé. Donc il est assez rare que les pentes dépassent 8%.
Oui, enfin, sauf quand l'intendant de la généralité sous l'Ancien Régime, le seigneur tout-puissant, exige par caprice de faire des routes modernes avec une pente impossible.
Oui, ça arrivait parfois, oui. Et ça, on le voit souvent. Et très souvent, on voit que c'est une route qui a été construite par un seigneur parce que la route va directement vers un château et puis, au dernier moment, on tourne à gauche ou à droite. Et c'est justement que c'était parce que c'était une route pour le seigneur, pas pour les paysans.
Mais les paysans ne l'empruntaient pas.
Non.
Vous dites parfois les routes modernes sont si incommodes, je parle des routes du XVIIIe siècle mal conçues, qu'elles sont désertes. Il faut chercher la circulation ailleurs,
oui,
que dans ces routes-là.
Oui, même aujourd'hui, mais surtout à l'époque. Mais il faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de circulation à l'époque, même sur une route nationale. Si on était au bord d'une route nationale, dans la deuxième moitié du 19e siècle, on voyait à peu près 10 véhicules au maximum par heure.
C'est-à-dire que la capillarité passe par d'autres vaisseaux.
Oui.
Expliquez ça.
Alors, la plupart des gens ne se déplaçaient pas beaucoup. et il n'empruntait pas une route qui était centrée sur Paris. Parce qu'à une certaine époque, on commençait à construire ce qu'on appelait les avenues de Paris. C'était les grandes routes de tout le royaume. Centré sur Paris, la plupart des gens passaient par les petites routes qu'on ne voyait pas. Et on pouvait voir, pour ainsi dire, toute la France par les fenêtres de la diligence sans rien voir. Et avoir l'impression, comme Arthur Young, qu'il n'y avait presque pas de population.
Alors, les avenues de Paris, les routes nationales, on va parler de ce qui se passe à partir de l'âge d'or de la diligence du début du 19e siècle. Ça vient de l'invention de l'école des ponts et chaussées, de la politique de l'Empire et de la Restauration?
Oui, c'était la politique centralisatrice qui a en fait commencé au XVIIe siècle. Donc tout devait servir Paris, qui était le centre de l'Empire. L'Empire, c'était la France. La France était la colonie de l'Empire qui s'appelait Paris.
Lisez plutôt les récits des paysans, les almanachs, ou écoutez les témoignages d'aujourd'hui, plutôt que de potasser les récits des touristes qui prennent la diligence, recommandez-vous. Tout de même, à l'arrêt, quand la diligence, par exemple, aboutit à l'Auberge Rouge, film de Claude Autant-Lara de 1951, c'est en Ardèche, il peut se passer des choses intéressantes.
Encore 4 heures, nous avons le temps d'être attaqués 100 fois.
Oh mon Dieu, quelle folie! Mais qu'est-ce que je suis venu faire dans ce pays de brigands?
On a cassé le timon.
Oh mon Dieu, nous sommes perdus.
Non, non, prenez vos places. Je connais l'auberge, on va pouvoir réparer.
Voilà, voilà!
Alors on y va!
Madame, du vin chaud pour tout le monde.
Merci. Quel bon feu! Mais quelle drôle d'odeur il répand!
Oui, ma femme et moi, nous brûlions à quelques hardes.
Marie, Marie, on fait encore ce coup-là et on sortira à la campagne.
À Pérabeille, en Vivarais, dans le département d'Ardèche, sur une route isolée, ils établirent leur commerce. L'auberge est sur le grand chemin où ils égorgeaient les humains.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Là, tu vas faire demi-tour, puis au bistrot, il y a un ancien bistrot, tu verras. Puis là, tu prendras à gauche.
Avec Graham Robb, qui demande souvent son chemin aux Français, puisqu'il pratique, c'est chez Flammarion, l'histoire buissonnière de la France. Le réseau des auberges, il se modernise au début du 19e siècle aussi. Monsieur et Madame Martin, dans l'Ardèche, ne sont pas très recommandables. Hein. Ils ont la réputation, peut-être exagérée, d'avoir assassiné beaucoup de monde.
Oui, ça, c'est une chose qui est arrivée de temps en temps. Mais il ne faut pas trop exagérer la violence des paysans, des sauvages de la province française envers les étrangers. C'était, en fait, au début, il n'y avait presque pas d'hôtel. C'était simplement quelqu'un qui prenait les étrangers, qui, même pas pour de l'argent. C'était c'est un peu pour se désennuyer.
Mais on ne dira jamais assez, en revanche, que les cochers des diligences étaient corrompus et débrouillards.
Oui, ah oui, il fallait bien. Et... Mais là encore, la diligence ne roulait pas très vite, il faut le dire. Et on le sait parce que parfois, si on ratait la diligence, on pouvait la rattraper à pied. Cela arrivait assez souvent.
Mais vous dites d'ailleurs qu'on marchait à pied au 19e siècle très très vite. On pouvait faire 80 km dans la journée. Et que, par exemple, quand on était dans les Landes munis des chasses,
oui, les bergers
on livrait le courrier beaucoup plus vite que la diligence.
Plus vite que la diligence, oui. Et parce que les échasses étaient beaucoup plus pratiques. Évidemment, dans le sol ensablé, et pour les diligences, il n'y avait presque pas de route à travers les Landes avant le 19e siècle.
La diligence est inconfortable, la diligence est très chère, la diligence est très lente. On a complètement oublié l'importance qu'avait au 19e siècle, nous sommes toujours au début du 19e siècle, la voie d'eau. L'éducation sentimentale, le début d'après Flaubert. On va entendre Michel Deray dans le rôle de l'adulte. Et puis, écoutez de très près le jeune bachelier, je dirai qui c'est.
Vous allez loin ?
Je ne vais qu'un agent sur Seine, chez ma mère.
Moi, je vais en Suisse. Nous prenons la diligence à Montreux. Vous faites vos études à Paris, sans doute ?
Non, je viens d'être reçu bachelier, mais je compte faire mon droit. Je viens du Havre, où j'ai rendu visite à un oncle.
Un oncle ? Ah, excellent ! Un héritage en vue, peut-être ? Je me présente. Jacques Arnoux, propriétaire de l'art industriel, journal de peinture et magasin de tableaux. Rue Montmartre.
Les passagers pour Montreux sont priés de préparer leur bagage.
Au revoir.
Le jeune bachelier, c'est Jean-Pierre Léo à ses débuts en 1973. Alors, vous avez entendu Michel de Rédy qu'il pratique un système mixte, la voie d'eau, la diligence.
Oui, oui. Alors, pour faire un tour de France, dans Valmont, on passait les trois quarts du temps sur un bateau. Si on partait de Paris, on prenait la Seine ou Lyon, la Marne, ensuite le Rhône, évidemment, qui était de loin le moyen le plus facile pour descendre vers le sud et le plus agréable et le moins dangereux. Et ensuite, pour remonter la Garonne, une diligence sans doute vers Nantes et puis, ou bien vers Tours, puis la Loire pour voir Nantes et de retour à Paris. Donc les trois quarts sur bateau.
6500 kilomètres de rivières navigables.
Oui.
Et de canaux.
Oui. Et de canaux, oui.
Vous pouvez nous raconter, je ne sais pas, le Rhône à Avignon en 1840.
Le Rhône à Avignon. Oui, je disais que ce n'était pas dangereux, mais le Rhône, c'était quand même assez dangereux. Les ponts, dont certains avaient survécu de l'époque romaine, n'étaient pas très sûrs et les bateaux s'écrasaient parfois contre les piliers des ponts.
Mais quand arrivait le pont d'Avignon, on chantait tous sur les bateaux.
On chantait toujours sur le pont d'Avignon, oui.
Mais d'un bateau à l'autre, expliquez-vous, on s'apostrophe, on s'injurie.
On s'injurie, oui, par tradition. Je ne sais pas quand ça a commencé, mais c'est ce qui arrivait toujours. Et pour les bourgeois bien élevés, les bons parisiens, ils étaient toujours très choqués par ce qu'ils entendaient. S'ils comprenaient.
On sait comment ça finit, par l'empire du train qui peu à peu télescope les villes et les provinces.
Yes, s'il vous plaît. Vous avez déjà contrôlé.
Mais je recontrôle. Merci, madame.
Voilà, monsieur.
Merci, mademoiselle.
À Bolbec, apparu à la dernière minute, très essoufflé, un monsieur à barbe noire avec une canne, des bagues et une chaîne en or. Il était lourdement chargé d'une valise et de nombreux paquets.
Ah, Julien le Dentu, voyageur.
Madame Pellier.
Ces dames changent de garnison.
Surtout, vous pourriez être poli.
Pardon. Je voulais dire ces dames changent de monastère.
Quand même pas que des bourgeois dans les trains, vous voyez, il y a la pensionnaire de Madame Tellier. C'est adapté de la maison Tellier de Guy Maupassant, le récit du transbordement de ces dames qui vont assister à une cérémonie, un extrait du plaisir de Max Ophuls, 1952. Oui, vous dites que ça coûte cher la diligence, ça coûte cher le train aussi.
Oui, ça coûte assez cher. Et on dit toujours que c'est le chemin de fer qui a contribué à apporter la civilisation française, parisienne, dans les provinces françaises. Mais on voit aussi que ce qui se produit, c'est ce qui se produit encore aujourd'hui, que certaines régions sont encore plus enclavées qu'avant par le chemin de fer. S'il n'y a pas de gare, même s'il y a une gare, les gens sont encore plus isolés que jamais. Le chemin de fer, c'est une route qui passe à travers les régions sans s'arrêter. C'est exactement ce qui se produit maintenant. Donc il ne faut pas exagérer l'influence du chemin de fer.
Ben si, parce que si on pousse au bout votre raisonnement, c'est le chemin de fer qui a vidé la France.
Qui a contribué à vider la France. En fait, maintenant, le chemin de fer, je parlerai plutôt des autoroutes qui font la même chose. J'ai des amis qui me disent ah, on a vu la Bourgogne, on a vu le Bourbonnais, mais ils ne l'ont pas vu parce qu'ils ont traversé tout ça par l'autoroute. Ils ont vu des panneaux qui marquent, par exemple, le centre de la France, mais ils ne l'ont pas vu. Ils l'ont vu seulement derrière le volant d'une voiture.
Mais quand Freycinet, sous la Troisième République, lance son grand réseau de multiplication du chemin de fer, qui va être opératoire pendant seulement une génération, une fois que le projet s'achève, des zones entières ont été pompées de leurs habitants qui ont vu l'apparition du chemin de fer comme la possibilité de partir.
Oui, la foire de Beaucaire, par exemple, qui était la foire la plus grande de l'Europe, a périclité, n'existait presque plus après le chemin de fer. Il n'avait aucune raison d'être.
Je ne sais pas si vous avez connu ça parce que vous ne regardez pas la télévision en France. Vous êtes sur les routes ou bien dans les bibliothèques. C'était à la télévision quand les programmes étaient interrompus par une panne, ce qu'on appelait le petit train rébus, ou bien l'interlude. Je voudrais que vous réfléchissiez encore sur le coût des transports. La diligence n'était accessible qu'à très peu de personnes. C'était le coût de l'avion ?
De l'avion pour aller à New York première classe, oui.
Le TGV coûte de plus en plus cher, il a 30 ans. En 10 ans, les prix ont augmenté de 22%, donc bien plus que l'inflation. Le gouvernement a mis au point à la fin de l'été 2011 une grille de tarifs encore plus large qui va permettre davantage d'augmentation encore. C'est ce que vous dites sur la guerre civile intérieure, en fait, qui illustre la prétendue démocratisation et modernisation des transports.
Oui, il y a deux. Ce que moi je remarque, c'est de plus en plus, il y a moins en moins de trains qui prennent les vélos. Ça, c'est important aussi. Pour aller d'une gare à une autre, il faut réserver à l'avance. On ne peut pas toujours être certain de trouver de la place pour les vélos.
Est-ce que vous diriez que le TGV est un signe du plus que la France s'ignore ?
C'est difficile à dire, mais quand on prend le TGV, les gens qu'on rencontre en général, c'est très souvent des Parisiens ou des Anglais, des businessmen. Donc c'est bien possible, oui. Mais on a toujours dit en France que le pays que l'on connaît le moins, c'est la France. Donc c'est peut-être vrai.
Est-ce que vous acceptez d'être qualifié de francophile, Graham Robb ?
Francophile au sens français peut-être, mais pas au sens anglais.
Qu'est-ce que c'est le sens anglais ?
Ça implique un manque de sens critique. J'aime bien la France. Je viens en France au moins deux fois par an. Mais si je disais aimer tout ce que je vois en France, je mentirais.
Alors, il faut recommander, en plus de votre histoire buissonnière de la France, qui présente de multiples aspects, on n'a parlé que des Français en circulation ce midi, c'est chez Flammarion, il faut dire qu'on peut lire aussi un livre étonnant sur Paris, qui a été publié et traduit lui aussi par Isabelle Taudière l'année dernière. Vous commencez en racontant le Paris souterrain.
Oui, le Paris.
Parce qu'il n'y a pas que la France qui s'expose, il y a la France souterraine.
Oui, il y a aussi des coins inconnus de Paris. Même, il y avait des quartiers inconnus de Paris. De nos jours, il y a des banlieues inconnues de Paris.
Le vélo vous mène jusqu'à Bondy ?
Oui, oui. Et à Saint-Denis, à Bondy, à Clichy-sous-Bois. Et là encore, on trouve les gens très accueillants envers les cyclistes. Et très courtois. Ça aussi, c'est une grande différence.
On ne va pas parler des émeutes d'Angleterre, on ne va pas être anglophobe, mais on dira que les émeutes en France en 1995 n'étaient pas très loin de la vieille forêt de Bondy. Comme quoi, il faut toujours revenir en arrière pour comprendre le présent. Je termine avec ce lieu commun en vous remerciant. Graham Robb, l'émission a été préparée par Jacques Sigal, Raphaël Kraft, Franck Olivard, Meryl Moneghetti, Frédéric Martin, à la technique, Élise Christophe et Pierrick Monsigny.